Jonas. 3h04 sur France Inter et c'est Michel Jonas que voici l'invité de Serge Devaillant cette nuit.
Que ce serait le grand swing, Mr. Swing. Un jour qui s'était lancé dans un bloc qui électrise. J'arrête une Cadillac, un Dorado métallisé gris. C'est un producteur à succès qui lui dit j'aime ce que tu fais. Tu t'appelleras Swing, Mr. Swing.
Michel Jonas, je suis ravi de vous revoir.
Je suis heureux.
Je constate que vous allez bien.
Oui, très bien.
Hors antenne, nous avons parlé cuisine. Je pense qu'on va bien s'entendre.
Voilà, j'ai une passion commune.
Que vient-on d'écouter ?
On vient d'écouter Swing Mr. Swing. C'était un titre important de la fabuleuse histoire. Je crois que c'est la chanson du producteur, c'est ça, hein ? Non, 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 c'est la chanson de, c'est la chanson qui raconte l'histoire, quoi, de ce chanteur.
Première. Histoire, il y a, c'est un spectacle qui s'est déjà donné il y a quelques années.
Il y a 20 ans, exactement 20 ans, puisque c'est pour ça que nous sortons le CD-DVD pour fêter cet anniversaire.
Ouais, il y a encore plus hein, dans cette belle boîte.
Oui, il y a pas mal de bonus, oui. J'avais envie d'avoir des bonus parce que, en fait, il y a un film, hein, c'est un film qui s'appelle le Mr. Swing, mais qui n'est pas la captation du spectacle, parce que ça a été tourné en 35 mm, vraiment, comme un long métrage. Hein. Il n'y avait évidemment à l'époque pas les mêmes moyens que nous avons aujourd'hui dans la vidéo, donc on n'a pas fait la captation. La captation n'existe pas de ce spectacle, de la fabuleuse histoire de Mr. Swing, ce qui veut dire que quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas vu ce spectacle ne le verra jamais, parce que je le reprendrai pas. Et donc ça m'ennuyait qu'il n'y ait qu'une partie, parce que de ce film raconte l'histoire du spectacle en fait. On voit les répétitions, on voit mon arrivée à Los Angeles, la découverte des musiciens qui m'attendent, etc. Et une grosse partie du spectacle et de la scène, mais pas tout. Et donc, j'ai eu envie, dans les bonus, de rajouter d'autres chansons. Malheureusement, on a connu un mini drame, c'est que tout ce qui a été tourné en dehors de ce film a été perdu. C'est ce qu'on appelle les fameux rushs de rush. Tout ça a été très malencontreusement perdu. Ce qui fait que j'ai été à la pêche aux images. Je me souvenais que des musiciens avaient une petite caméra vidéo à l'époque, ça existait quand même déjà. Un technicien aussi avait ça et il avait filmé. Donc j'ai été comme ça à la recherche de ces images volées un petit peu et c'est important pour moi de mettre les répétitions à Los Angeles, de mettre d'autres chansons, même si la qualité du son, etc., est pas extraordinaire, la qualité des images est pas extraordinaire, mais bon. Disons qu'au moins ça a le mérite d'exister. Puis il y a par exemple un concert qu'on avait fait à l'époque à Fleury-Mérogis à la prison des femmes, et ce qui permet de, même si le son n'est vraiment pas extraordinaire, pas mixé, etc., mais ce qui permet d'avoir un petit aperçu des autres chansons qui ne sont pas dans ce film. Et puis il y a aussi les retrouvailles, les fameuses retrouvailles, parce que j'avais envie de revoir ces gens-là avec qui j'avais partagé cette si belle et longue aventure.
Mais il faut recommencer.
Mais j'ai pas, on m'en parle souvent, mais j'ai pas envie, je crois pas. Vous savez, c'est un peu comme en amour, je crois, ces spectacles-là, parce que ça m'a marqué. Je crois que c'est un des plus importants souvenirs artistiques de ma vie. Je crois pas qu'on doit retrouver comme ça, qu'on ait envie de, moi je peux pas retrouver le bonheur passé ou voyez, les amours passés. C'est fait, quoi, c'est fini, je pourrais pas, quoi. J'ai pas envie de ça. Pour moi, ce serait revenir un peu en arrière. Et puis, voilà, j'aime bien être animé du désir de nouveaux projets. Et c'est ça qui me porte, c'est ça qui me donne cette joie encore que j'ai heureusement aujourd'hui de faire ce beau métier.
Oui, mais faut le refaire.
Quoi, ce spectacle-là. Non, je le referai pas. Non, je le referai pas.
87-89. Plus de 100 000 spectateurs.
Oui, ça avait bien marché. Ça avait commencé en 88. Hein. Pendant 2 mois à La Cigale, ces spectateurs-là qui ont assisté à ces débuts étaient, pour moi, privilégiés, dans le sens où ce qui m'intéressait vraiment, c'est que c'était un spectacle entièrement inédit, donc il n'y avait pas de repères, il n'y avait pas de chansons connues, c'était tout était à découvrir, et c'était un spectacle assez long, hein, qui racontait donc une histoire, mais il y avait une vingtaine de chansons, ça durait 3 heures, 3 heures un quart, et c'était ça le défi, en fait. C'était, voilà, les gens venaient, s'asseyaient et avaient tout à découvrir. Un peu, bien sûr, comme une comédie musicale, mais ça n'en était pas une exactement. C'était entre, puisque malgré tout, j'étais devant mon micro, j'avais 5 musiciens derrière moi, je parlais, il y avait beaucoup de textes intermédiaires, et je chantais, mais bon, je veux dire, je dansais pas beaucoup, il y avait pas d'autres comédiens avec moi. Donc voilà, c'était plutôt une histoire racontée à travers des textes parlés et des textes chantés. Et c'était un spectacle entièrement inédit.
Vous étiez sur un nuage ?
Oui, j'étais sur un nuage parce que, en fait, je sortais du spectacle Univers l'Uni qui avait eu lieu en 85 au Palais des Sports, qui a été, voilà, un vrai démarrage pour moi. Ça a été le gros succès avec la boîte de jazz, etc. Et donc, je savais que je pouvais profiter, qu'il y avait un crédit du public, et je savais qu'ils allaient me suivre dans la prochaine aventure. Donc j'avais envie d'abuser un peu, mais de profiter de ce crédit là puisque je sortais d'un gros succès. Je savais donc qu'il y avait un nombre X, disons suffisant, de spectateurs qui allaient me suivre dans la prochaine aventure. Donc je me disais, je peux prendre des risques, je peux m'amuser, parce que moi j'ai toujours eu, c'est vrai, je l'ai encore aujourd'hui, j'ai toujours eu comme une haute opinion du public. Je pense que le public, il est intelligent et qu'il est ouvert, qu'il est réceptif. Et je me disais, ça, voilà, là, je vais lui montrer que je l'estime beaucoup et que je le sais capable, et qu'en plus il peut prendre du plaisir à ça, à ne pas être content d'écouter des nouvelles chansons, oui, mais parce que il y a quand même des repères d'anciennes chansons qu'on connaît, et bon, ça fait du bien, etc. Voilà, de casser un petit peu ça. Ça, j'étais content de leur montrer ça. Pour moi, c'était comme un cadeau. Et eux m'ont fait, évidemment, ce cadeau d'apprécier ça, de pas me réclamer des chansons qu'ils connaissaient, qu'ils auraient pu avoir envie d'écouter, etc. Ils étaient très 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 attentifs, très à l'écoute. C'était vraiment un public de grande qualité tout le temps. Le disque ensuite est sorti, c'est-à-dire après la tournée a continué. C'est vrai que ça a été une tournée très importante, hein, et qui a duré un an, et on a refait Paris après au Casino de Paris. Mais après, l'album qu'on a enregistré live est sorti, donc c'était déjà un peu moins cette découverte du spectacle inédit.
Aujourd'hui, c'est sur DVD la fabuleuse histoire de Mr. Swing avec Michel Jonas, bien sûr.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Ne pas oublier la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais, je t'aimais, et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie ne sait pas ce qui sait. Tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, et nous vivions tous deux ensemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais, mais la vie c'est pas ce qui s'aime. Tout doucement, sans faire de bruit, la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Extrait d'un album intitulé Chansons françaises, Michel Jonas, notre invité cette nuit sous les étoiles exactement sur France Inter. Que représente la couverture de cet album?
Oui, c'est une vieille radio qui ressemble beaucoup à celle qu'il y avait chez mes parents au 4e à Drancy. Et puis c'est mes parents aimaient beaucoup la chanson française et voilà, je me souviens de cet appareil et de la voix de Piaf qui sortait de là. Et mon père qui m'avait emmené un jour comme ça voir Edith Piaf, je pense que c'était le premier spectacle de ma vie. Il m'avait dit, faut que tu vois cette petite bonne femme, etc. Et ça m'avait vraiment profondément marqué.
Une douzaine de chansons, toutes ne sont pas de vous.
Ah non. Non, disons que j'ai eu envie de rendre hommage à ces musiques. À trois formes de musique dont je parlais souvent quand on me disait quelles ont été vos inspirations, donc je disais toujours qu'il y a eu la chanson française que mes parents adoraient, qui m'ont fait découvrir et que j'écoutais et que j'ai appris à grands interprètes et ce Brel et Brassens et Ferré et Piaf, tous ces gens que j'ai eu la chance de voir sur scène tant de fois, et puis d'écouter les albums, etc. Souvent, chacun pour une raison différente, ils m'ont apporté beaucoup. Brel, parce que sur scène, c'était incroyable, quoi. C'était voilà, c'était la démesure de, c'était l'interprète pour moi. Et chanter, c'est interpréter. C'est pour ça qu'il y a, je vois pas une grosse différence entre être un acteur, un comédien et un chanteur. Brel était un acteur sur scène, et puis il y avait une force incroyable. Brassens c'était la poésie qui swingait. Voilà, il nous montrait, d'autres avant bien sûr, mais lui nous me montrait, parce que moi j'étais un fan, que la poésie prenait une force, une valeur quand elle était quand elle swingait comme ça, quand elle était mise en musique. Piaf, c'était l'émotion, quoi. C'était incroyable, cette voix qui remplissait la salle de l'Olympia, et puis cette petite bonne femme minuscule là, avec ses mains sur ses jambes et qui bougeait presque pas, mais enfin c'était un lyrisme, et puis Ferré, la démesure de la poésie, etc. À chacun pour une raison particulière. Alors, il y avait la chanson française, il y avait la musique tzigane de mes grands-parents, certainement la première musique que j'ai écoutée, que j'ai racontée souvent, quoi, les musiques tziganes qui leur rappelaient leur terre natale. Et bien sûr, le blues, le Ray Charles, le rhythm and blues, le rock and roll. Voilà, tout ça. C'est cette musique-là qui m'a donné à moi envie d'en faire. Et donc, je me suis dit, à force de parler de ça tout le temps dans les interviews, j'ai envie de rendre hommage à ces trois formes de musique. Donc, j'ai commencé cette espèce de, disons, cette trilogie. J'ai commencé par la chanson française, j'ai fait le spectacle et l'album. Voilà, et puis je vais continuer cette année avec l'hommage à la musique tzigane que je vais faire à la fin de l'année, c'est-à-dire à partir de septembre.
Vous avez pas pris les chansons les moins connues? Elles sont dans notre
elles font partie de
dans notre poésie collective.
C'est ça fait vraiment partie de notre patrimoine, quoi, de notre patrimoine culturel, mais je les ai pas choisies pour ça. Je crois pas les avoir choisies par hasard. J'ai à chaque fois eu un vrai coup de cœur. Je veux dire, par exemple, je pense à La Mémoire et la Mer, c'est ma chanson préférée, quoi, de ma chanson française préférée. C'est incroyable, cette chanson là elle est très 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 étonnante, hein. Je crois qu'il peut même y avoir un club de gens qui aiment La Mémoire et la Mer, parce que les gens qui aiment cette chanson et qui en parlent, ils ont toutes la même façon de, vous voyez, c'est-à-dire, c'est assez son voyage, justement, hein, avec cette poésie de Ferré, hein, Marie, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe, je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe, un bateau, ça dépend comment, on l'arrime au port de justesse. C'est une espèce de musique qui est émouvante, et puis des comme ça une poésie qui n'est pas tellement mentale, quoi, hein. Chacun peut faire son propre voyage. Donc j'ai pas choisi par hasard, et puis les chansons de Brassens, je les aime. Brel, j'avais envie de chanter Fernand, qui est une chanson que j'adore. Non, je les ai pas choisies parce qu'elles étaient connues ou pas connues. J'ai vraiment choisi, j'ai tout réécouté d'abord. Mais je les connaissais déjà, surtout Brassens, je connaissais vraiment très bien le Brassens, mais j'ai quand même réécouté le répertoire de Ferré, j'ai quand même réécouté pour me dire bon, voilà, j'ai envie de rendre hommage, la base, le cœur, c'est ça, hein. C'est Brel, Ferré, Brassens et Piaf. Donc j'ai réécouté, et voilà ce que j'ai eu envie de chanter ça.
Il y a aussi Nougaro avec Armstrong.
Il y a eu Nougaro aussi, oui, bien sûr. Nougaro, c'était pas la même histoire. Nougaro, on était déjà plus proches, c'est-à-dire, enfin plus proches, peut-être dans le temps ou dans l'âge ou je ne sais pas quoi. Ça n'a pas été, je veux dire, je me sentais très relié à lui, voilà. Mais je crois pas avoir été, alors que je l'ai été, et marqué vraiment par Brassens et Brel et Ferré et Piaf.
Vous-même, vous êtes un chanteur repris.
Oui, pas tant que ça, hein, un petit peu, mais enfin...
Ah, dans toutes les écoles de chant.
Ah bon?
Ah oui, oui.
Mais comment vous savez?
Parce que vous allez dans les fréquenter écoles. Et chanter Jonas, c'est pas rien.
Ah.
Dans les modulations, dans... le rythme,
oui.
C'est un bon exercice.
Ah bah ça me fait plaisir.
Vous avez été repris aussi par les Manhattan Transfer.
Ah oui, ça c'est je voulais te dire que je t'attends, qui est une chanson qui a été reprise par beaucoup de gens, oui, effectivement, celle-là. La première fois c'était ça, c'était le Manhattan Transfer, oui.
Ouais, vous avez eu quelle impression la première fois que vous avez entendu le Manhattan Transfer?
C'était particulier parce que j'avais été les voir sur scène, c'était à Cannes, et puis ils savaient que j'étais dans la salle, et puis ils ont chanté cette chanson, puis à la fin ils m'ont, vous voyez, le grand truc quoi, ils ont dit voilà, Monsieur Jonas est là, et puis il y a eu un projecteur sur moi, puis je me suis levé, enfin vous voyez, ce genre de situation où il faut quand même garder son calme et pas trop rougir quoi. Moi je suis pas très à l'aise, vous savez, je suis pas un garçon très people, hein. Je me sens comme un...
Ah oui, on vous voit trop rarement dans les magazines.
Non, c'est pour ça que je veux dire, mais... enfin, voilà, moi, je suis un artisan, quoi. Mais j'aime bien, hein, les... Ça me fait plaisir, quoi, quand les gens, ils reprennent les chansons, c'est vrai que c'est comme un... Bah, c'est comme un compliment, quoi, et comme un cadeau, c'est vrai, ça fait plaisir.
Ouais, c'est vrai que les paparazzi ont pas l'air de vous embêter.
Mais je crois que je les intéresse pas, évidemment. J'ai pas une vie de dingue.
Oh,
quoi.
Comme c'est décevant.
Ça peut être décevant pour eux, c'est vrai.
Qui a réalisé l'album?
Oh, ben moi, je suis producteur de cet album. Ouais. C'est, oui, mais je suis producteur maintenant depuis quelques années, hein, depuis 20 ans maintenant, je suis producteur de mes albums. Donc, mais ça veut pas dire que c'est moi qui fais tout, hein. Je choisis. Donc là, il y a des arrangeurs, il y a Guillaume Poncelet, il y a des musiciens, il y a plein de gens qui participent, bien sûr. Mais pour la réalisation, effectivement, c'est moi qui choisis ces gens-là. Je suis responsable, quoi.
Donc c'est un vrai coup de cœur de votre part, cet album.
Oui, parce que c'était important pour moi de dire, je crois qu'à un moment, enfin j'ai eu envie de dire merci, vous voyez, j'en parle tout le temps, etc. Puis à un moment donné, dans sa vie, on a envie de dire merci à ses pères, quoi, de se retourner puis de dire, ben voilà, je vous remercie, vous êtes vivant ou pas, mais peut-être que vous m'entendez, enfin, vous voyez, je sais pas, en tout cas, vous avez été sur ma route, c'est ça que j'avais envie de dire, quoi, vous avez été sur ma route, et ça a été important pour moi, et moi je serais pas là, si vous aviez pas été là, et je ferais pas les mêmes choses, s'il y avait pas eu la musique également, que c'est ça qui m'a nourri, et c'est grâce à ça que aujourd'hui je fais de la musique, et j'en suis fier, et j'en suis évidemment très heureux.
Mes instructions. Soyez prêts à tous les sacrifices. J'ai de l'expérience, j'ai de l'intuition. Pour que votre carrière aboutisse. L'important, la seule chose qui compte vraiment, c'est de trouver la bonne vibration, l'énergie créatrice. Une aisance, une présence, une parfaite maîtrise de la danse et de l'improvisation. La bonne fusion, afin que le fruit agisse. Dans le drame ou dans l'émotion, faites craquer les admiratrices. Je m'occuperai de la partie organisation. Paris, New York, Toulouse et Nice.
Pourtant la seule chose qui compte vraiment, c'est de trouver la bonne pulsion, la bonne vibration, l'énergie créative. Une aisance, une présence, une parfaite maîtrise de la danse et de l'improvisation. La bonne pulsion, afin que le flux d'agisse qui font le contact. Le papillon est dans la foule, je t'en babille. Et pour le contact, le baby love you, sont le one more time facile. Et pour le contact, ne jamais, jamais tourner dans face.
Extrait de la fabuleuse histoire de Mr. Swing.
Ça, c'est la chanson du producteur, voilà.
Vous redonnez ça quand?
Vous l'avez pas vu, c'est ça? Non, je le redonnerai pas.
En tout cas, France Inter, vous avez soutenu, avez programmé largement les morceaux.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui.
Et de venir ici, ça doit vous faire quelque chose, parce que vous avez fait partie de la nouvelle chanson française, découverte par un certain Foulquier.
Oui, exact. Oui, et j'ai vu Pauline, là, il n'y a pas longtemps, qui a travaillé pendant des années avec Jean-Louis. C'est vrai. Alors, on en a passé des soirées quand il avait ses émissions de la nuit, là. Qu'est-ce qu'on a rigolé?
Ah, c'est du temps où on rigolait.
Oh là là, on rigolait, là, la nuit, là. On riait bien, là. Avec Renaud, avec Souchon, avec tout ça. On rigolait. Mais on rigole toujours. Disons que peut-être on se voit moins, quoi, je ne sais pas. C'est peut-être ça l'histoire, on se voit moins, on est plus à droite à gauche, sur les routes, etc. Oui. Non mais je me plains pas. Hein.
Vous n'avez pas intérêt.
Oh non.
Vous n'avez pas intérêt. Le cinéma, ça se passe comment aujourd'hui, pour vous?
Ben j'ai tourné un petit peu, pas beaucoup, mais ça va. Que j'ai fait quelques... Oui, ça va, c'est bien. Il y a un film dans lequel j'ai tourné l'année dernière qui va sortir là, le 25 mars, qui s'appelle de Lucien Jean-Baptiste, qui s'appelle La Première Étoile. Et voilà. Ben là, en ce moment, je suis surtout en train d'écrire donc ce spectacle que je prépare pour la rentrée, pour à partir de septembre à Paris. Qui sera le deuxième volet, hommage à la musique tzigane, mais qui sera sous la forme d'une pièce de théâtre. Voilà. Donc je suis en train d'écrire ça, avec dedans bien sûr des chansons, donc ça me prend beaucoup de temps.
Quels sont les bonheurs que vous avez eus au cinéma jusqu'à présent?
Je me souviens d'un film du testament du poète juif assassiné, tiré du roman de d'Elie Wiesel, ce poète Palciel Kosover, le poète juif assassiné. Franck Cassanti m'avait proposé ce rôle-là. J'avais lu le bouquin, j'avais lu le scénario, j'avais été vraiment vraiment touché, vraiment ému. Ça, ça a été un souvenir fort parce que j'étais très heureux de tourner ce film-là. Et puis, malheureusement, ça n'a pas marché du tout, mais c'était quand même un souvenir fort. Et puis, bien sûr, la première fois, quand je me suis retrouvé sur un plateau de cinéma, quoi, c'était qu'est-ce qui fait courir David avec Deli Chouraki, avec Francis Huster, Charles Aznavour, etc. Donc c'était ma première expérience de cinéma. Je me rappelle, là, par contre, j'étais un peu traqueur, quoi. Mais j'ai aimé ça. Avec Christian Faure, excusez-moi, mais comme vous me parlez des beaux souvenirs, il y a eu aussi film avec Christian Faure. Deux fois, j'ai tourné Christian Faure, le réalisateur de L'Amour à Terre. C'était un très joli téléfilm. Et puis, on a tourné un autre film qui s'appelle Léo Mur. Et puis, il y avait eu aussi le Tango d'Erachevski, que j'avais beaucoup aimé. Enfin, j'ai pas tourné tant que ça, mais à chaque fois, c'est un beau souvenir.
Vous avez une DVTech personnel concernant les films où vous apparaissez, vous avez gardé ce souvenir-là?
Oh, je crois que je les ai gardés, oui. Pas tant que ça. Oui, je les ai gardés. Certainement, ils sont là, oui. Je les regarde pas, mais je sais qu'ils sont là.
Bon, après quelques années, ça ressemble à des films de vacances.
Oui, un petit peu. Non, mais ça, j'aime bien. Quelquefois, j'en revois. Là, par exemple, vous parlez de L'Amour à Terre. Il est passé il y a pas longtemps. Je l'ai regardé avec plaisir. C'est très agréable, en fait. Je trouve, moi, ça me plaît beaucoup, le cinéma. Il y a des moments incroyables qu'on peut vivre. Ces moments où, ces secondes juste avant où le metteur en scène va dire action, vous voyez, cette espèce de silence qui s'installe, cette espèce de fil un peu invisible qui commence à se tisser entre les acteurs qui vont jouer une scène, et puis qui est un mélange d'un peu d'appréhension, mais en même temps heureux de faire ce métier là et puis etc., puis l'envie de bien faire, puis l'envie d'être relié, puis l'envie de... Tout ça, c'est très excitant, quoi. C'est très et émouvant. Moi, j'aime bien ça. Voilà, j'aimerais tourner plus, c'est vrai, mais en même temps, ça va parce que j'ai toujours quelque chose à faire. Et puis, c'est pas pour moi quelque chose de vital puisque c'est mon métier d'auteur-compositeur, interprète qui me nourrit, hein, en particulier la scène, bien sûr. Donc c'est bien, c'est agréable de ne pas avoir besoin, mais c'est pour moi un vrai plaisir. Et voilà.
Voulez-vous nous parler d'Atys, Le sacrifice d'amour?
Ah ben, c'est un roman initiatique, je pourrais pas vous en dire beaucoup là-dessus. C'est un roman initiatique intéressant.
Que vous avez écrit?
Ah non. Qui vous a dit que j'ai écrit? Je n'ai pas écrit de roman, moi.
Que vous avez lu?
J'ai lu, oui, je l'ai lu, oui, je suis l'éditeur surtout, parce que j'ai créé une petite maison d'édition, les éditions Michel Jonas, un peu spécialisée dans le développement personnel, dans la spiritualité, etc. Donc ça, la dernière parution, c'est ce roman initiatique, l'histoire d'une jeune princesse dont le père veut marier par force et qui va s'échapper, qui va se retrouver dans un cercle de particulier de guérisseurs. Enfin voilà, c'est tout un chemin initiatique assez intéressant, ce roman Atys. Et voilà, mais vous savez, je suis devenu éditeur. Je sais pas, j'aurais préféré devenir cuisinier, mais c'était plus mon truc, mais un peu par la force des choses, parce que j'étais tombé un jour sur des très beaux textes d'une jeune femme, et elle cherchait un éditeur, et je lui ai dit je vais t'aider, parce que c'est vraiment joli, c'est vraiment beau. Claire Montello, et c'était des très beaux textes, un recueil qui s'appelait Paroles d'éveil, et j'ai pas trouvé d'éditeur, personne n'en voulait. Alors je lui ai dit, ben je vais le faire. Moi j'ai créé, c'est comme ça que ça a commencé. Mais c'est une toute petite maison d'édition, mais qui a des choses intéressantes.
Il y a un site web d'édition.
Oui, bien sûr, il y a le site, mais c'est mon site. Si on va sur mon site officiel, aujourd'hui on peut trouver le site de l'édition.
Pas le râteau de la méduse, ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en pépénard sur la grande mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. C'est fruit d'une atnecmergiture. C'était pas de la littérature, n'en déplaise. Oh, je te sors, oh, je te sors. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de pop, des copains de bord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Poésie. Sur le ventre, ils se tapaient fort, les copains de bord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient, toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait, car c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, leur balançaient des SOS. On aurait dit des sémaphores, les copains d'amour. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau se refermait. S'entend avec aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en terre peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelle les copains d'abord, les copains d'abord.
Extrait de cet album, Michel Jonas. L'album s'intitule Chansons françaises. C'est vous qui avez fait les arrangements alors ?
Non, c'est pas moi qui ai fait les arrangements. Non, c'est Guillaume Poncelet qui a fait les arrangements.
Enfin, vous lui avez fait des propositions quand même.
C'est lui qui m'a fait des. C'est eux qui m'ont fait des propositions, oui. Mais disons que pour le tempo, je savais où comment j'avais envie de traiter les chansons. Sur quel tempo, quelle pulsion rythmique j'avais envie de chanter, etc. Voilà, c'est tout.
Vous êtes toujours sur les routes ?
Oui.
Dans quelle formule ?
En ce moment, c'est un trio. Deux musiciens. On est trois sur scène et c'est très agréable. Donc il y a justement Guillaume Poncelet qui est au clavier et qui joue également de la trompette. Et il y a Stéphane Edouard qui est un percussionniste, qui joue donc des percussions. Piano, percussion et moi. Et c'est très très agréable, c'est la première fois, parce que moi je crois pas avoir fait un spectacle sans batteur par exemple, ou sans bassiste. Mais c'est vraiment très intéressant. Parce que là, on est obligé d'aller vraiment de les synthétiser, de qu'est-ce qui est important. Et en même temps, ce qui est très agréable, c'est l'espace que ça laisse, l'espace que ça donne. Moi, ça me permet de chanter d'une autre manière. Bien sûr, c'est évident, quoi. Quand il y a pas la grosse artillerie, disons, que j'aime beaucoup, hein, moi, j'ai besoin de rythmique de toute façon. Je pense pas pouvoir prendre du plaisir en faisant, par exemple, un spectacle comme d'autres, un spectacle piano voix. Je crois que je m'ennuierais au bout de la troisième chanson. J'ai besoin de la chose rythmique. Mais voilà, la percussion me suffit très largement, quoi. Et il me faut quelque chose qui donne le tempo, quoi, qui donne le rythme. Mais et par contre, il y a effectivement un espace qui fait que les nuances passent beaucoup plus facilement, etc. Et ça, c'est très agréable. Donc, on est en tournée depuis le mois de septembre avec cette formule trio. C'était juste après le spectacle chanson française, parce que voilà, moi, j'ai toujours envie d'être sur scène et j'ai envie de trouver des formules différentes et des façons de ouais, parce que je crois qu'il faut un petit peu aller ailleurs à chaque fois. Moi, je me suis toujours dit depuis le début qu'il fallait que je m'étonne moi-même, sinon j'allais m'ennuyer, sinon j'allais m'endormir, sinon j'allais m'enfoncer dans un fauteuil et c'était cuit, quoi. Ces gens, j'allais dans un confort très dangereux pour l'artiste, des formules ou des nouvelles façons d'enregistrer, ou voyez, des fois je peux passer 3 mois dans un studio, puis des fois une semaine justement pour changer, voilà. Et cette façon, enfin cette formation trio là, nous allons d'ailleurs faire le 3 et le 4 mars, c'est bientôt le Casino de Paris. C'est très agréable pour ça, parce que il y a une intimité qui donne un espace très agréable à chacun. Mais par contre, c'est d'une grande exigence, parce qu'on entend absolument tout, quoi. Hein. La moindre petite imperfection du percussionniste, du pianiste ou de ma voix qui machin, tout passe. On peut difficilement pardonner quoi que ce soit. Mais c'est en même temps très agréable et j'ai l'impression que les gens aiment beaucoup ça, ce contact intime.
Vous en jouez toujours des claviers ?
Oui, j'en joue bien sûr, parce que je joue, oui, je joue 3 fois, je me mets au piano 2-3 fois, justement parce que je ne voulais pas trop tricher avec des bandes et des boucles et des machins qui pourraient remplacer quoi que ce soit. Donc Guillaume Poncelet, qui fait les claviers, est également trompettiste. Donc lorsqu'il joue de la trompette, il y a 2 chansons qu'il joue de la trompette. Le boléro et mélancolie, et bien moi je me mets au clavier. Et puis je me mets au clavier à la fin aussi pour une chanson qui s'appelle C'est ça le blues.
Lors d'un concert, il y a des chansons obligatoires. Sinon le public va...
Ben pas vraiment. Il n'y a pas de chansons obligatoires. Il y a des chansons que les gens attendent. Oui, ça je m'en suis rendu compte. Mais il peut pas y avoir des chansons obligatoires. Je peux pas chanter obligatoirement, quoi. C'est impossible pour moi. Alors je sais bien que je suis pas là pour me faire plaisir, qu'il y a des gens qui se sont déplacés, qui ont payé leur place, qui ont pris leur voiture, qui sont machin. C'est très compliqué d'aller dans un spectacle et que c'est quand même quelque chose et que c'est pour eux qu'on est là. Oui, mais en même temps, je peux pas chanter une chanson uniquement pour faire plaisir, parce que c'est pas possible. Si je suis pas animé du plaisir de chanter, ça va pas aller. Je vais chanter par devoir. Notre métier d'artiste ne peut pas se faire par devoir. Il peut pas se faire sans enthousiasme, sans joie, sans plaisir. Donc mon premier critère, c'est avant tout, est-ce que j'ai envie de chanter cette chanson-là ? Qu'est-ce que j'ai envie de chanter quand je prépare un tour de chant ? C'est ça la question que je me pose. Bien sûr, je sais, les gens sont connus. Donc j'en tiens compte, bien sûr, et je me dis, est-ce que j'ai envie de chanter ça ? Oui, mais des fois non. Voilà. Il m'arrive très souvent. Voyez, par exemple, c'est pas toujours très agréable dans des spectacles qu'on fait, surtout l'été par exemple, dans des spectacles en plein air que la municipalité très gentiment offre, hein, à la ville, donc des spectacles gratuits. Donc on peut se retrouver devant 2000 personnes. Ces 2000 personnes ne sont pas des gens qui viennent là devant l'estrade, devant la scène, parce qu'ils m'aiment, parce qu'ils sont, ils viennent.
Bon, monsieur, bah, vous êtes monsieur.
Non mais il y en a qui m'aiment, bien sûr, merci. C'est très gentil. Mais voilà, ça arrive, ça. Et ces gens-là, qui ne sont pas des vrais fans, qui ne viennent pas à chaque spectacle, qui ne connaissent pas le répertoire, mes chansons, mes albums, qu'est-ce qu'ils connaissent de moi ? Ils connaissent la boîte de jazz, les vacances au bord de la mer. Peut-être je voulais te dire que je t'attends, parce qu'ils l'ont entendu à la télévision quelquefois chanté par d'autres.
Super Nana.
Et puis Super Nana, et dites-moi. Voilà. Donc, il m'est arrivé de chanter 1h30 sur scène avec des gens qui m'ont réclamé dès la 2e chanson la boîte de jazz, par exemple. Vous savez, c'est terrible.
La boîte de jazz.
Vous finissez une chanson et vous entendez jusqu'au bout. Donc,
et puis vous n'avez pas cédé. C'est pour ça que vous l'avez entendu jusqu'au bout.
Ah, c'est-à-dire que c'est très bizarre parce que, par exemple, là, ça m'arrive en ce moment avec le trio. Il y a deux musiciens sur scène. Il y en a aucun des deux qui chante et les gens me réclament la boîte de jazz et que je vois pas comment ils peuvent imaginer qu'on peut la faire. Par exemple, vous voyez, au niveau des arrangements, c'est presque impossible. Voilà. Au moins, il faudrait qu'ils puissent comprendre que qu'il y en ait un qui chante, par exemple. Mais bon, voilà, ils chantent pas, ils chantent jamais. Donc, je vois pas comment. Il faudrait que je fasse les réponses, vous voyez. Hé, hey, Gus, tu connais Charlie Mingus? Par cœur, je connais par cœur. Faudrait que je fasse tout, faudrait que je chante tout. Enfin, bon, voilà. Et puis, encore une fois, j'ai pas toujours envie de chanter ces chansons-là. J'ai pas toujours envie de chanter ces standards. Super Nana, par exemple, qui est une chanson de Jean-Claude Vanier. Eh bien, c'est une chanson dont je ne me suis jamais lassé. Donc celle-là, je sais qu'elle fait plaisir aux gens, d'abord parce qu'ils la connaissent et puis qu'il y a un vrai partage. Moi j'aime ces partages, vous voyez là, on a entendu Les Copains d'abord. Quand j'ai chanté Les Copains d'abord avec le spectacle de chansons françaises, les gens chantaient avec moi. Quand je chante Super Nana, les gens chantent avec moi. Quand je chante Les Amoureux des Bancs Publics de Brassens, les gens chantent avec moi. Et c'est des moments importants dans un spectacle, ce partage qui est vécu comme ça. Donc c'est vrai que Super Nana, parce que il y a des chansons comme ça qui sont, je suis autant plus à l'aise d'en parler qu'elle est de Jean-Claude Vanier, qui sont très adaptables, qu'on peut redécouvrir à chaque fois, qu'on peut réarranger d'une façon ou d'une autre à chaque fois pour préserver le plaisir de chanter, quoi. Parce que c'est ça qui compte, hein. C'est ça. C'est pas, on ne peut pas uniquement chanter pour faire plaisir aux gens. Je le sais que je suis là pour faire plaisir aux gens, mais je sais aussi que si le bonheur n'est pas partagé, ça ne passera pas. Et ils seront pas heureux, c'est pas vrai. Parce que, encore une fois, je ne peux pas chanter rien que pour, voyez, pas par devoir, quoi. Voilà.
Compris.
Hein? Non, mais oui, bah, tant mieux, parce que c'est vrai que c'est des choses que je vis tout le temps, quoi. C'est vrai. Beaucoup. C'est vrai. Des fois, j'entends ça et c'est pas toujours facile d'entendre ça. Vous voyez, d'entendre des gens qui vous réclament des chansons du début à la fin, quoi, comme ça. Bon, bah, pour ouais. Vous dire, ça, vous avez l'impression, c'est moi, je suis venu pour ça. Donc, si tu me la chantes pas, je suis déçu.
Il y a même encore pire, il y a l'organisation du système de ce métier. Lorsque vous êtes invité à la télévision, il y a des producteurs qui exigent que vous chantiez les titres les plus connus et qui méprisent ce que vous faites. Il y a des tas d'artistes. Là, on va recevoir très prochainement Salvatore Adamo, qui a laissé d'innombrables tubes. Mais ce qu'il écrit aujourd'hui est superbe aussi.
Je sais.
Et il faut s'y intéresser.
Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est assez frustrant. Mais c'est des leçons pour moi. Hein. Vous savez, moi, il m'arrive de rencontrer des gens dans la rue qui me disent « c'était bien quand vous chantiez ». Vous voyez, et moi je sors de scène, quoi. Et je suis tout le temps sur scène, je suis tout le temps en tournée, et je rencontre des gens qui me disent pourquoi vous chantez plus? Parce que les gens se sont arrêtés aux Vacances au bord de la mer de 74 ou 75 de Super Nana, les Vacances au bord de la mer. Et puis voilà, c'était super la boîte de jazz. C'était
qu'est-ce
vraiment
c'était
super. Vous étiez vraiment un bon artiste, enfin vous étiez
qu'est-ce
un bon chanteur. Pourquoi vous avez arrêté? C'est nul ça. Fallait continuer. Oh là là. Non, mais on le vit tout le temps, ça, comme vous voyez, ça c'est pas très grave, parce que finalement, moi j'ai pas choisi de faire ce métier pour le succès ou pour la gloire ou pour être reconnu dans la rue, bien que je savais que c'était quand même un passage obligé, c'est-à-dire que je savais que le succès, même si c'est pas un but, c'était forcément peut-être même le seul moyen pour pouvoir vivre de mon art, pour pouvoir exprimer ce que j'avais envie d'exprimer, de pouvoir disons un petit peu confortable, qu'il me fallait quand même un minimum vendre des disques et un minimum de gens qui viennent me voir sur scène pour que je puisse continuer à faire d'autres spectacles, pour que je puisse continuer à faire d'autres albums. C'est de plus en plus difficile aujourd'hui, hein. Ça, là, faudra qu'on m'explique comment on peut continuer à fabriquer des choses que les gens n'achètent pas. Mais bon, ça, bon, peut-être j'exagère un petit peu parce que, bon, ça continue quand même, mais ça devient très, 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 très exceptionnel. Donc le disque est devenu aujourd'hui comme un espèce de support promotionnel pour les spectacles. Bon, je ne sais pas où on va. Enfin, ça va peut-être changer, mais enfin, j'espère, parce qu'il faut préserver l'intégrité et la qualité de ce que représente la chanson française, c'est très important. C'est-à-dire, si elle a plus les moyens, vous voyez, d'être enregistrée dans des bonnes conditions, ou etc., c'est un petit peu embêtant, parce qu'on va aller au plus facile, faut surtout passer. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire des bonnes choses avec moyens financiers moindres, puisqu'il faut s'adapter à un marché qui est en dégringolade et qui est en plein changement. Hein. Le téléchargement légal ne remplace pas aujourd'hui, pour l'instant, l'achat du disque, de l'objet disque dur. Ça ne le remplace pas. Hein. Vous voyez, moi je parlais avec un directeur de maison de disque l'autre fois, Monsieur Chassagne, pour pas le nommer, de ma maison de disque de distribution Warner. Il me disait que le téléchargement payant représente 15% de son chiffre d'affaires. Donc ça continue quand même à être, pour le plus important continue à être quand même le support physique, mais on le sait très bien, ça diminue beaucoup. Voilà, je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans d'ailleurs, mais enfin bon.
À propos de support physique, nous irons vous supporter les 3 et 4 oui. au Casino de Paris. C'est une salle que vous connaissez bien.
J'adore cette salle. Oui, j'aime beaucoup cette salle.
On peut vous y retrouver aussi, 20 ans en arrière. On répète.
Oui.
Sur cette fabuleuse histoire de Mr. Swing, aujourd'hui disponible en DVD avec un long reportage.
Oui.
Et puis le retour 20 ans après, il y a ce concert aussi à Fleury-Mérogis, oui. Dans la prison de femmes. Et puis il y a, aux éditions Michel Jonas, la sortie du Hatties.
Oui, merci d'en avoir parlé. Décidément, t'es bien fait de venir.
On se revoit prochainement,
j'espère. J'espère aussi.
Et nous parlerons de musique zigane.
On parlera du prochain spectacle, j'espère, oui, pour en septembre.
Portez-vous bien, bonne
vous aussi.
Salut.
Allez, au revoir.
Entre mon cœur et ma langue, il y avait des rivières infranchissables, des passages à niveau fermé. J'ai dû déblayer des montagnes de sable pour une parcelle de vérité. Ce soir, les barrières se brisent, silence aussi. Ce soir enfin, les mots s'envolent. Il n'existe aucune différence, oh je t'aime, ça y est, je te l'ai dit, entre mon âme et mes paroles. Et je dédicace à celle que j'ai ces chansons qui ne viennent pas n'importe où, mais du fond de mon vrai moi-même. Je t'aime, je te l'ai dit, je vais jusqu'au bout. Et je pose comme un diadème sur son front des phrases mises bout à bout. Chaque lettre est une perle rare, je les accroche autour de ton cou. Traversant les rivières qui les arrêtent et franchissant l'infranchissable, tous ces passages à niveau fermé. Surgissant au grand jour enfin de mon moi véritable, les voici. C'est mon vérité, même si ce n'est qu'une petite parcelle d'un amour infini, un petit morceau invisible. De simples syllabes, nous sommes en jeté, ça y est. De toute éternité indivisible.
chansons qui ne viennent pas n'importe où. Mais du fond de mon rêve, moi-même, je t'aime, je te l'ai dit, et jusqu'au bout. Et je pose comme un diadème sur son front des phrases mises bout à bout. Chaque lettre est une pierre précieuse, je les accroche autour de ton cou. Et je dédicace à celle que j'aime ces chansons qui me viennent tout à coup.